C'est Anne Fauquemberg qui nous présente le premier journal de la journée. Bonjour Anne.
Bonjour Julie, bonjour à tous. Le gouvernement interpellé face au drame du logement indigne. La maire d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis demande à l'État plus de moyens après le nouvel incendie qui a fait 7 blessés dans sa commune. C'était dimanche soir. Nous entendrons cet appel de Meryem Derkaoui au début de ce journal.
En Tchétchénie, l'État islamique revendique les attaques qui ont fait plusieurs blessés dans les rangs de la police hier. Le point dans un instant avec Marie-Pierre Véraud.
Au lendemain de la lettre sans précédent du pape François au monde catholique au sujet de la pédophilie dans l'église, nous irons aussi au Chili. L'archevêque de Santiago, mis en examen pour avoir couvert des prêtres, se débat pour assurer sa défense.
Enfin, l'actrice Asia Argento, figure de proue du mouvement MeToo, accusée elle-même d'agression sexuelle. Comment réagissent les féministes? Vous avez donné la parole à Fatima Benomar de l'association Les Effrontés.
La maire d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis devrait donc être reçue par un membre du gouvernement dans la journée. Hier, l'élu communiste Meryem Derkaoui s'en est pris sévèrement à la politique de l'État en matière de logement. Conséquence de l'incendie qui a touché dimanche soir un immeuble qui n'était pas habilité à servir de logement. 7 personnes grièvement blessées moins d'un mois après un drame mortel dans un HLM insalubre de cette commune. Selon Meryem Derkaoui, les communes ne peuvent s'en sortir seules face à une telle insalubrité.
Il n'est plus possible de nos jours, au 21e siècle, d'être logé dans ces conditions. J'en ai appelé au gouvernement pour déclarer une urgence absolue pour éradiquer l'habitat indigne. Je demande le soutien de l'État par rapport à cette situation. Nous avons un service hygiène qui lutte contre l'insalubrité, mais c'est des enquêtes qui prennent beaucoup de temps. Il faut renforcer ces services pour poursuivre justement les marchands de sommeil. Si je pouvais recruter encore 4 ou 5 inspecteurs et inspectrices d'hygiène habitat, c'est quand même autour de 150 000 euros de masse salariale. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de le faire. Donc, c'est ce type de geste que pourrait faire le gouvernement vis-à-vis d'une ville comme Aubervilliers. Mais c'est aussi déclarer que le logement social redevienne une priorité pour M. Macron.
Des propos recueillis par Simon de Fauquempré, le gouvernement se défend de ne rien faire. Dans un communiqué hier soir, le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, a rappelé que le projet de loi Élan a été adopté au Sénat fin juillet et que ce texte comprend plusieurs mesures contre l'habitat insalubre. Le neveu de la Française Sophie Petronin, enlevée au Mali fin 2016, interpelle l'Élysée. Il demande à Emmanuel Macron de ne pas laisser mourir sa tante et de recevoir la famille de cette humanitaire qui dirigeait dans le pays du Sahel une association d'aide aux orphelins. On sait pertinemment qu'il n'y a rien qui se passe, mais c'est surtout qu'Emmanuel Macron ait la décence de nous recevoir comme toutes les autres familles d'otages, a déclaré ce proche de Sophie Petronin, dont le dernier signe de vie remonte au mois de juin dernier. Une vidéo dans laquelle elle s'adressait à son fils. En Tchétchénie, une série d'attaques a été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Hier, attaque qui a fait plusieurs blessés dans les rangs de la police notamment. Les autorités de cette république russe du Caucase ont dénoncé une tentative de déstabilisation. Marie-Pierre Véraud.
3 attaques auraient eu lieu, selon le comité d'enquête russe. Dans la matinée de lundi, 2 hommes ont tenté de pénétrer dans un poste de police de la ville de Chali, dans le sud. Ils ont blessé 2 policiers au couteau. Au même moment, dans un village voisin, un jeune homme portant un sac à dos se faisait exploser près d'un poste de police. Et dans la capitale, Grozny, c'est un homme qui a foncé au volant de son véhicule sur des agents de la circulation, avant d'ouvrir le feu à l'arme automatique sur les policiers qui s'étaient lancés à sa poursuite. 3 attaques, 3 modes opératoires prônés par l'État islamique dans ses appels à mener des attentats en transformant véhicules ou couteaux en autant d'armes contre la police. L'EI a d'ailleurs peu après revendiqué cette série d'attaques. Pour le dirigeant tchétchène, l'autocrate Ramzan Kadyrov, les assaillants qu'il estime être un groupe de jeunes gens ayant subi l'influence du groupe terroriste sur les réseaux sociaux ont voulu troubler la fête musulmane de l'Aïd al-Adha que célèbre la Russie ce mardi. Depuis l'Arabie Saoudite où il participe au pèlerinage du Hajj, Kadyrov assure que ces jeunes ne bénéficiaient pas de structures de soutien ni de base sociale dans la République. Mais on sait que l'EI a recruté de nombreux Tchétchènes. Depuis le milieu des années 90, la rébellion séparatiste s'est islamisée avant de s'étendre à tout le Caucase du Nord. En juin 2015, elle prêtait allégeance à l'État islamique et nombre de ses membres ont rejoint les rangs djihadistes en Syrie et en Irak.
Les précisions de Marie-Pierre Véraud. Toujours aucun signal du Kremlin pour une libération du cinéaste ukrainien Oleg Kolesentsov. En dépit de la mobilisation occidentale, il entame aujourd'hui son 100e jour de grève de la faim. Cet artiste, opposé à l'annexion de la Crimée, n'est maintenu en vie que par des compléments alimentaires injectés par l'administration pénitentiaire. Il exige la libération de tous les prisonniers politiques ukrainiens emprisonnés en Russie. Les Tchèques et les Slovaques se souviennent du 50e anniversaire de l'écrasement par les chars soviétiques du printemps de Prague. Aujourd'hui, épisode historique incarné par Alexander Dubček et sa tentative d'instaurer un socialisme à visage humain. Dans la nuit du 20 au 21 août 1968, cette période de dégel marquée par une libéralisation des activités politiques, économiques et culturelles a donc pris fin, écrasée donc par les chars russes. De nombreuses cérémonies sont prévues en République tchèque, même si le chef de l'État, le pro-russe Miloš Zeman, a décidé de garder le silence. C'est inédit dans l'histoire de l'Église catholique. Le pape François a adressé hier une lettre à tous les catholiques du monde, une semaine après le nouveau scandale de pédophilie dans l'État américain de Pennsylvanie. Ce message condamne les violences sexuelles et le pape demande aux catholiques de contribuer à l'éradication de ce qu'il appelle cette culture de la mort. Message qui a particulièrement résonné au Chili. L'archevêque de Santiago vient en effet d'être mis en examen pour pédophilie. Il devait être présenté aujourd'hui au parquet, mais il a obtenu un délai supplémentaire pour préparer sa défense. Justine Fontaine, cet homme est soupçonné d'avoir couvert plusieurs membres du clergé.
C'est une lettre saisie lors d'une perquisition qui accuse Ricardo Ezzati, l'archevêque de Santiago. Dans ce courrier, un évêque lui reproche de garder le silence sur les agissements de prêtres pédophiles. Le numéro 1 de l'église chilienne a donc été mis en examen, ce que salue José Andrés Murillo, cofondateur de l'ONG Ending Clergy Abuse. Il a lui-même été victime d'un prêtre pédophile.
On voit le même mode d'action de la part de la hiérarchie de l'Église dans différents diocèses et même différents pays. Le but était de couvrir les prêtres pédophiles et d'isoler les victimes.
En visite au Chili en janvier, le pape avait provoqué un tollé en prenant la défense d'un évêque accusé d'avoir couvert un prêtre pédophile. Depuis, il semble vouloir changer les choses et il a poussé tous les évêques chiliens à la démission en mai. Un premier pas, selon Juan Carlos Claret, il est le porte-parole d'une association de catholiques du sud du Chili qui se sont battus pour que le pape accepte la démission de l'évêque de leur région. Il attend beaucoup de la justice chilienne.
Aujourd'hui, le parquet a les outils en main pour changer le mode d'action de l'institution. Parce que sinon, le pape peut changer les têtes, nommer de nouveaux évêques plus sympathiques, mais qui seront tout aussi dangereux qu'avant.
En tout, 38 enquêtes judiciaires sont en cours au Chili concernant des violences sexuelles commises par des membres de l'Église catholique.
Correspondance à Santiago de Justine Fontaine. Donald Trump n'attend pas grand-chose des discussions commerciales prévues demain et jeudi avec la Chine à Washington. Le président américain a donné un long entretien la nuit dernière à nos confrères de l'agence Reuters. Les États-Unis ont prévu de taxer une seconde tranche de produits chinois à partir de jeudi, taxe toujours très élevée à hauteur de 25%, ce qui va entraîner une riposte de Pékin. L'objectif du président américain, c'est de rééquilibrer les échanges commerciaux avec la Chine en déficit de plus de 375 milliards de dollars l'an passé. Enfin, ne pas ternir le mouvement de libération de la parole des femmes, hashtag MeToo. Beaucoup de réactions parmi les féministes deux jours après les révélations du New York Times concernant l'actrice italienne Asia Argento, l'une des premières femmes à avoir accusé de viol le producteur de cinéma Harvey Weinstein. Elle est elle-même accusée d'agression sexuelle. Les faits remonteraient à l'année 2013 sur un jeune acteur de 17 ans que l'actrice aurait ensuite payé pour qu'il se taise. Écoutez la réaction de Fatima Benobar, la porte-parole de l'association féministe Les Effrontés.
Chaque fois qu'il y a des faits sur des hommes qui ont été agressés, peut-être ou harcelés par des femmes, en général, c'est très médiatisé en essayant de remettre en cause la parole des femmes sur les agressions sexistes et sexuelles. Très souvent, quand il y a des mouvements, on a besoin de personnes qui les incarnent. Ces personnes-là sont mythifiées, on a besoin d'elles, qu'elles soient infaillibles et qu'elles représentent toutes les femmes. Ça, c'est pas possible. Ce qui était intéressant avec le mouvement MeToo, c'était que c'était un mouvement de la base. Donc, ce n'était plus quelque chose qui, comme au départ du mouvement, était plus plutôt la parole de personnalités publiques, de Hollywood. Des milliers et des milliers de femmes se sont saisies des réseaux sociaux pour témoigner de ce qui leur arrivait. Leur vécu a toujours de la valeur. Je pense que c'est très très important de prendre en compte l'idée que c'était un mouvement de masse, de la base, et que Madame Tout-le-Monde a enfin pu s'exprimer sur ça.
Des propos recueillis par Laurence Méride. La météo de ce mardi 21 août, ça sera très nuageux et pluvieux près de la Manche, ensoleillé partout ailleurs. Les températures toujours estivales, 20 à Cherbourg ce matin, 21 à Lille, 22 à Paris, 25 à Strasbourg, 26 à Lyon et déjà 31 degrés à Marseille, Julie Gacon.
Merci beaucoup Anne Faucamberg, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30.